Chapitre 9. Je suis face au mur du fond de la resserre. La machine est devant moi. Il fait très froid. Il n'y a pas que mes doigts qui sont comme des pierres. Il y a mon nez aussi. Je ne le sens plus. Lorsque je cherche mes mots et que je lève les yeux, je rencontre le mur, et alors je me dis que je n'aurais peut-être pas dû mettre la table contre lui. Il a trop de personnalité, il est trop présent, il me parle du camp. J'ai rencontré là-bas un mur pareil au mien. Lorsque l'on arrivait au camp, on passait tous à la Buxte, la boîte. C'est ainsi que les gardes appelaient l'endroit. Une petite cage de pierre d'un mètre cinquante sur un mètre cinquante, dans laquelle on ne pouvait ni se tenir debout ni se coucher. Ils nous sortaient des convois à coups de trique, dans les hurlements. On devait ensuite, en courant, rejoindre le camp. 3 kilomètres de mauvais chemin, sous les cris, les aboiements des chiens, leurs morsures parfois. Ce qui tombait était achevé sur place, à coups de bâton. Nous étions faibles. Nous n'avons rien mangé depuis 6 jours et presque rien bu. Nos corps étaient ankylosés. Nos jambes nous portaient mal. À mes côtés, il y eut ainsi l'étudiant Moshe Kelmar, qui avait été dans le même wagon que moi. Durant 6 jours, nous avions parlé, tandis que nous étouffions entassés dans le grand étau de métal qui avançait à une allure de limace, dans une campagne qu'on n'apercevait même pas, que nos gorges devenaient sèches comme des pailles de la fin août, qu'autour de nous la grande masse humaine gémissait et pleurait. Il n'y avait pas d'air, pas de place. Il y avait des vieillards, des jeunes filles, des hommes, des femmes. Il y avait tout près de nous une jeune mère et son enfant de quelques mois, une très jeune mère et son petit enfant. Je me souviendrai d'eux toute ma vie. Kelmar parlait la langue de Fédorine, cette langue millénaire qu'elle avait déposée en moi et qui, tout soudain et sans effort, était remontée à mes lèvres. Il connaissait beaucoup de livres et savait aussi beaucoup de noms de fleurs, même celui de la pervenche des ravines, qui est une sorte de fleur légendaire dans notre région. Alors qu'il avait vécu toujours dans la capitale, c'est-à-dire très loin de chez nous, très loin de la montagne, il n'avait jamais mis les pieds sur les hauteurs et s'en faisait tout un monde. Il avait des doigts de jeune femme, des cheveux blonds très fins, un visage délicat. Il portait une chemise qui avait été blanche, en beau lin, brodée de torsades sur les plastrons, une chemise que l'on met pour les bals ou pour les rendez-vous d'amour. Je lui avais demandé des nouvelles de la capitale, que j'avais connue jadis, du temps de mes études. À l'époque, les gens de notre province passaient la frontière pour s'y rendre. Même si cette ville appartenait au pays des fratères Gekheime, notre contrée avait durant tellement de décennies été rattaché à elle, sous l'Empire, que nous nous y sentions encore comme chez nous. Kelmar me parla des cafés où se retrouvaient les étudiants pour boire des vins chauds et manger des gâteaux à la cannelle parsemés de grains de sésame, de la promenade Elsie qui longe un joli lac sur lequel en été on invitait des jeunes filles dans des barques et où on patinait l'hiver, de la grande bibliothèque, de la rue de Glockenspiel et ses milliers de livres reliures d'or, de la cantine Stoop, où une grosse femme, Fraglik, se donnait pour notre mère et remplissait nos assiettes de louches entières de ragoût et de soupe à la saucisse. Mais à mes questions sur les lieux que j'avais connus et aimés, Kelmar me répondait la plupart du temps qu'il ne les avait pas revus depuis 3 années au moins. Depuis le jour où lui et tous ceux qu'on avait surnommés les Fremde avaient été cantonnés dans la partie ancienne de la capitale transformée en ghetto. Mais dans cette enceinte, il y avait un lieu qu'il avait beaucoup fréquenté et dont il me parla longuement. Un endroit qui m'était si cher que le simple fait de l'évoquer de nouveau aujourd'hui fait battre mon cœur un peu plus vite et fait venir un sourire dans mon âme. Le petit théâtre Stupischpil avait une scène minuscule et 4 rangées de fauteuils seulement. Les spectacles qui s'y donnaient étaient sans doute les plus mauvais de la ville, mais l'entrée n'y valait presque rien et durant les jours froids de novembre et de décembre, La petite salle était bien chaude et douce comme une meule de foin. Un soir, j'y étais allé en compagnie d'Ouli Rat, un camarade étudiant, bon vivant, dont le rire continuel semblait être une cascade de pièces de cuivre et qui en pinçait pour une apprentie comédienne. Celle-ci, un peu ronde et brunette, jouait un rôle mineur dans une farce sans queue ni tête. Je somnolais à demi quand à deux sièges du mien s'est assise une jeune fille. Ses vêtements trop minces pour la saison montraient bien qu'elle venait là pour les mêmes raisons que moi. Elle tremblait un peu. Elle ressemblait à un petit oiseau, mésange fragile et vive. Ses lèvres un peu ouvertes et d'un rose pâle souriaient. Elle souffla sur ses petites mains, se tourna vers moi et me regarda. Une vieille chanson de la montagne dit que lorsque l'amour frappe à la porte, il ne reste que la porte et que tout le reste disparaît. Nos yeux se sont parlé ainsi pendant plus d'une heure. Et lorsque nous sommes sortis du théâtre comme des automates, il a fallu le froid du dehors pour nous tirer de notre songe. Un peu de neige tombait sur nos épaules. J'ai osé lui demander son prénom. Elle me l'a donné et ce fut pour moi le plus précieux des présents. Dans la nuit qui a suivi, je n'ai cessé de le murmurer, ce prénom, de le dire et le redire, comme si le répéter ainsi à l'infini allait, devant moi, faire apparaître comme par magie l'ange aux yeux noisettes qui le portait. Emilia, Emilia, Emilia. Kelmar et moi, nous sommes sortis du wagon en même temps. On a couru en protégeant nos têtes avec nos mains. Les gardes hurlaient. Certains parvenaient même à rire en hurlant. On aurait pu croire à une grande comédie, mais il y avait les gémissements et il y avait l'odeur du sang. Kelmar et moi étions essoufflés. Nous n'avions rien mangé depuis 6 jours et à peine bu. Nos jambes nous portaient mal. Nos articulations étaient pleines de rouille. Nous courions comme nous pouvions. Ça n'en finissait pas. Le matin commençait à laisser tomber sa lumière pâle sur les prés aux alentours, même si, dans le ciel, n'apparaissait encore aucun soleil. Nous avons dépassé un grand chêne, tordu, et auquel la foudre avait grillé une partie du feuillage. C'est peu après que Kelmar s'est arrêté, d'un coup. « Je n'irai pas plus loin, Brodeck. » Je lui ai répondu qu'il était devenu fou, que les gardes allaient arriver, qu'ils allaient fondre sur lui et le tuer. Je n'irai pas plus loin. Je ne pourrai pas vivre avec ce que tu sais, a-t-il répété. J'essayais de le prendre par la manche, de le tirer malgré lui, rien n'y a fait. J'ai tiré plus fort. Un morceau de sa chemise m'est resté dans la main. Les gardes au loin se sont aperçus de quelque chose. Ils ont cessé de parler et ont regardé dans notre direction. « Viens, viens vite !» ai-je supplié. Kelmar s'est assis tranquillement au milieu de la poussière de la route. Il a répété encore « Je n'irai pas plus loin. » Très doucement, très calmement, comme quelqu'un qui ne fait que dire à haute voix une décision grave qu'il a soupesée longuement dans le silence de ses pensées. Les gardiens se sont mis à marcher vers nous, de plus en plus vite, et à crier. « Kelmar !» j'ai murmuré. « Kelmar, viens, je t'en supplie !» Il m'a regardé en souriant. « Tu penseras à moi, quand tu reviendras dans ton pays, quand tu trouveras la pervenche des ravines. Tu penseras à l'étudiant moche Kelmar. Et puis tu raconteras, tu diras tout. Tu diras le wagon. Tu diras aussi ce matin, Brodeck. Tu le diras pour moi. Tu le diras pour tous les hommes. Mes reins se sont enflammés avec violence. Un autre coup de bâton m'a entaillé l'épaule. Les deux gardes étaient là, qui hurlaient et frappaient. Kelmar a fermé les yeux. Un garde m'a poussé, m'a crié de partir. Un nouveau coup a fait éclater mes lèvres. Le sang a coulé dans ma bouche. J'ai recommencé à courir, en pleurant. Non parce que j'avais mal, mais en pensant à Kelmar qui avait fait son choix. Les hurlements se sont éloignés. Je me suis retourné. Les deux gardiens s'acharnaient sur l'étudiant. Son corps oscillait de droite à gauche, comme un pauvre pantin dont de mauvais garçons se seraient amusés à rompre toutes les articulations et les mécanismes. J'ai cru revivre alors, dans un atroce raccourci, le soir de la pourriche Nacht, la nuit de la purification. Je n'ai jamais trouvé la pervenche des ravines dans nos montagnes. Pourtant, je l'ai vue dans un livre précieux. C'est une fleur pas très haute, à la tige fine et dont les pétales d'un bleu profond paraissent soudés à ne jamais vraiment vouloir s'ouvrir. Mais peut-être qu'il n'en pousse plus désormais. Peut-être que la nature a décidé de la retirer à jamais du grand catalogue et de priver les hommes de sa beauté. De les en priver parce qu'ils ne la méritaient plus. Au bout du chemin et au bout de ma course, il y avait l'entrée du camp. Un grand portail en fer forgé, joliment ouvragé, comme le portail d'un parc de loisirs ou d'un jardin d'agrément. De part et d'autre se dressaient deux guérites peintes de rose et de vert pimpant dans lesquelles des gardes se tenaient droits et raides. Et au-dessus du portail, il y avait un gros crochet, brillant, semblable à un crochet de boucherie auquel on suspend des bœufs entiers. Un homme s'y balançait, mains liées dans le dos, une corde au cou, les yeux grands ouverts et sortis des orbites, la langue épaisse, gonflée, tendue hors des lèvres, un pauvre gars qui nous ressemblait comme un frère, et dont le maigre poitrail s'ornait d'une pancarte sur laquelle était écrit, dans leur langue, la langue des Frater Krem, qui avait été jadis le double de notre dialecte, sa sœur jumelle. « Ich bin nicht. » Je ne suis rien. Le vent le faisait bouger un peu. Trois corneilles patientaient non loin de lui, guettant ses yeux comme des friandises. Tous les jours, un homme était ainsi pendu à l'entrée du camp. Chacun, le matin, en se réveillant, se disait que ce serait peut-être son tour. Les gardes nous sortaient des cabanes où nous nous entassions, à même le sol pour la nuit, nous faisaient mettre en rang, et nous attendions, ainsi, debout, longtemps. Quel que soit le temps, nous attendions qu'ils choisissent l'un d'entre nous, la victime du jour. Parfois, c'était décidé en 3 secondes, d'autres fois, ils nous jouaient au dé ou aux cartes. Et nous devions attendre debout près d'eux, en rang parfait, immobile. Les parties s'éternisaient, et au bout du compte, le vainqueur avait le privilège de faire son choix. Il passait dans les rangs, nous retenions notre souffle, chacun tentait de se rendre le plus insignifiant possible, le garde prenait son temps. Puis il finissait par s'arrêter devant un prisonnier. Le touchait du bout de son bâton et disait simplement « D'où ?» Nous autres, tous les autres, au fond de nous, on sentait naître une joie folle, un bonheur laid et qui ne durerait que jusqu'au lendemain, jusqu'à la nouvelle cérémonie, mais qui permettrait de tenir encore. Le doux partait avec les gardes. Il allait jusqu'au portail, on le faisait monter jusqu'au crochet, on lui faisait dépendre le pendu de la veille et ensuite le descendre sur son dos, creuser une fosse et l'enterrer. Puis les gardiens lui faisaient enfiler le panneau « Ich bin nicht ». Lui passait la corde, le faisait monter en haut de l'escabeau et attendait que la Zeilenessenis arrive. Die Zeilenessenis, c'était la femme du directeur du camp. Elle était jeune, et surtout, elle était d'une inhumaine beauté, faite d'un excès de blondeur et de blancheur. Elle se promenait souvent dans le camp, et nous avions ordre, sous peine de mort, de ne pas croiser son regard. La Zeilenessenis ne manquait jamais la pendaison du matin. Elle arrivait lentement, fraîche, les joues encore rosies par l'eau pure, le savon, la crème, et le vent parfois nous apportait son parfum, un parfum de glycine. et je ne peux plus depuis lors sentir cette odeur de glycine sans vomir et sans pleurer. Elle avait des habits propres. Elle était impeccablement coiffée, vêtue. Et nous, à quelques mètres, mangés de vermine dans nos haillons qui n'avaient plus ni forme ni couleur, la peau crasseuse et puante, les crânes rasés et croûteux avec nos os qui tentaient de nous trouer de toutes parts, nous appartenions à un autre monde que le sien. Elle ne venait jamais seule. Toujours elle portait dans ses bras son enfant. Un nourrisson de quelques mois enrubanné de joli linge. Elle le berçait calmement, lui parlait à l'oreille, lui fredonnait des airs de comptine. L'une, je m'en souviens, disait « Felt, felt von Licht, mans hunger au vollrecht. Felt, felt von Licht, oh mein kinder so verstillest. » Monde, monde de lumière, la main des hommes sur toute chose, monde, monde de lumière, ô mon enfant si doux repose. L'enfant était toujours calme, il ne pleurait pas. Parfois il dormait, mais avec de petits gestes très tendres, elle le réveillait et lorsqu'il finissait par ouvrir les yeux, gigotait avec ses petits bras et ses petites cuisses, bâillait au ciel. Alors d'un simple geste du menton, elle signifiait aux gardes que la cérémonie pouvait commencer. L'un d'entre eux lançait un grand coup de pied dans l'escabeau et le corps du doux chutait, vite retenu par la corde. Atzeilen et Sénis le regardaient quelques minutes, et sur ses lèvres venait alors un sourire. Elle ne perdait rien des tressautements, des bruits de gorge, des pieds lancés dans le vide à la recherche du sol, des bruits goitreux des intestins qui se vidaient, de l'immobilité enfin, du grand silence. Elle posait alors un long baiser sur le front de son enfant, qui parfois pleurait un peu, moins de peur sans doute que parce qu'il avait faim et réclamait sa tétée, et s'en allait calmement. Les trois corneilles prenaient leur place. Je ne sais pas si c'était les mêmes chaque jour, elles se ressemblaient tant. Les gardiens aussi se ressemblaient tous, mais eux ne mangeaient pas les yeux. Ils se contentaient de nos vies, comme elle, comme la femme du directeur, celle qu'entre nous nous avions surnommée la Zeilen et Sinis. Die Zeilen et Sinis, la mangeuse d'âme. Par la suite, j'ai souvent pensé à cet enfant, à son enfant. Est-il mort comme elle? Est-il en vie? S'il est vivant, il doit avoir l'âge de ma petite poupchette. Comment est-il donc, ce petit qui durant des mois a été chaque matin nourri du lait tiède des seins de sa mère et du spectacle de centaines d'hommes pendus? Quels sont ses rêves? Ses mots? Sourit-il encore? Est-il devenu fou? A-t-il tout oublié ou bien ressasse-t-il dans son jeune cerveau les mouvements saccadés des corps qui s'approchaient de la mort, des plaintes étranglées, les pleurs qui coulaient sur les joues grises et creuses, les cris aigres des oiseaux? Les premiers jours au camp dans la Buxte, j'ai parlé sans cesse à Kelmar, comme s'il était encore vivant. La Buxte, c'était un cachot sans fenêtre. Le jour venait par-dessous la grosse porte bardée de ferrures. J'ouvrais les yeux, je voyais le mur face à moi. Je fermais les yeux, je voyais Kelmar, et dans son dos, plus loin, beaucoup plus loin, Emilia. Ses épaules douces et menues, et plus loin encore, Fédorine, qui pleurait en soucant doucement la tête. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans la Buxte, avec ses trois visages et avec ce mur. Beaucoup de temps, sans doute. Des semaines, peut-être des mois. Mais de toute façon, là-bas, au camp, les jours, les semaines, les mois, cela ne signifiait rien. Le temps ne comptait pas. Le temps, ça n'existait plus.